les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
C'est un dossier un peu spécial aujourd'hui, Alex. D'abord parce qu'on va vous parler d'une série belge, Melting Pot, mais aussi parce qu'elle sera émaillée de quelques interviews.
Effectivement, aujourd'hui nous nous attaquons à une série du Nord, une série belge. Il s'agit de Melting Pot Café. Cette production créée par Jean-Luc Gossens et réalisée par Jean-Marc Vanvoort a été diffusée à partir de 2007 sur la chaîne publique belge, la RTBF. Le succès est au rendez-vous car la série entame sa troisième saison cette année. Stéphanie Chavagne et Eloïse Rouard ont eu la chance de pouvoir assister au tournage de cette saison. Elles nous ramènent donc quelques mines d'or de la capitale de la Belgique et de l'Europe, Bruxelles. Et à ce qu'elles m'ont dit, cette série n'a rien à envier aux productions françaises, n'est-ce pas les filles ?
Oui, exactement. Melting Pot Café, frappé par son cachet Made in Belgium, est une série atypique. Nullement dans l'idée de copier des séries déjà existantes, ce programme innove et propose une vision, une intrigue et un humour bien différents des séries françaises et belges classiques. D'ailleurs, nous l'avons bien constaté sur le tournage.
Effectivement, nous avons eu la chance, avec Stéphanie, de nous rendre sur le tournage de la troisième saison de Melting Pot Café et de rencontrer Stéphane Bissot, qui est en fait l'héroïne de cette série et qui interprète le rôle de Madame Astrid. Madame Astrid qui est en fait la patronne de ce Melting Pot Café et qui depuis la première saison se bat pour son café. Mais je propose qu'on laisse plutôt parler Madame Astrid de cet endroit qui lui est si cher.
Melting Pot Café, c'est une série de proximité, bien ancrée dans le paysage bruxellois, on va dire, de notre petite Belgique. C'est l'histoire du plus vieux café du pays, on va dire, qui est une espèce de melting pot toute génération, tout sexe confondu, tous âges, tout ça, qui est tenu par une famille très très soudée, très très fusionnelle, composée de moi-même, donc hein, Madame Astrid, Fabrice Murgia qui joue Philippe Flupk, mon gamin, et Tilla Shelton qui joue ma maman, Mank. On suit un petit peu les tribulations des relations de cette famille et du petit monde du café, qui est un peu à l'image du pays, qui pourrait représenter un peu le vieux, notre vieille Belgique, un petit peu brinque-ballée dans tous les conflits d'intérêts, les conflits sociaux, les conflits de génération. Voilà, comment on fait pour se démerder quand on a 20 ans, qu'on est né dans un quartier un peu populaire et qu'on ne sait pas trop se dépatouiller, dire non à sa mère parce qu'on est embrigadé dans des relations affectives très très fortes. Et pour mon personnage, bah, comment on fait quand on est une femme qui n'est pas très douée avec la gestion, on va dire, et l'organisation, et qui ne fonctionne qu'au coup de cœur et qu'à la survie, et qui est une lionne qui n'a pas bien conscience des usages, et qui, dès qu'on touche un cheveu de sa petite famille ou de tout ce qui fait sa vie, donc son café, tout ça, ses souvenirs, donc avant tout sentimental, qui se bat bec et ongles pour que tout ça puisse tenir le cap face à des gens qui sont prêts un peu à tout pour détruire tout ça. Voilà, c'est une série de cœur.
Comme vous l'avez compris, c'est une série qui tourne essentiellement autour de ce café, qui se trouve au plein milieu des Marolles, un quartier populaire de Bruxelles, où une ambiance un peu particulière règne. Entre deux scènes, Philippe, le fils de Madame Astrid, qui est interprété par Fabrice Murgia, en profite pour nous décrire et nous emmener dans ce Melting Pot Café.
Le Melting Pot Café, c'est un bar comme il y en a beaucoup ici dans les Marolles. Ça me rappelle des endroits quand je joue au théâtre en France. Il y a beaucoup d'endroits comme ça, c'est-à-dire qui sont chargés d'histoire, qui sont ancrés dans une réalité sociale. Mais ceci dit, il y a quelque chose qui est bruxellaire, il y a un accent qui est là. Donc il y a ce jukebox. Astrid en parle beaucoup, elle vit une véritable histoire avec ce jukebox. Et puis il y a aussi cette tapisserie pisseuse qui renvoie à une certaine esthétique qui serait moche si ça n'avait pas son total charme. Le fait qu'on mange du stoumboudin ici va très très bien avec le décor et avec les gens surtout, parce que le melting pot c'est ça, c'est des gens.
Le comédien, il a quand même une faculté de description de l'endroit. C'est vrai que ce bistrot, il fait quand même très Marolles, très quartier de Bruxelles. Ça doit être un peu bizarre pour des Français d'entendre tout ça.
Disons que c'est sûr que ça nous permet de montrer un patrimoine belge qu'on n'est pas habitué à montrer, mais c'est un endroit qui est vraiment génial, hein. C'est un endroit qui a une âme. Et en fait, pour la petite histoire, c'est un café qui devait être détruit parce qu'il ne répondait plus aux normes de salubrité, etc. Et il a une seconde vie avec cette série. Et d'ailleurs, normalement, après, ça deviendra des logements sociaux, donc ça va, de toute façon, à terme disparaître. Mais c'est un endroit, oui, hyper typique. C'est quelque chose, le jukebox, là, ça met une âme et ça apporte tout le sens à cette série. On n'a pas encore vraiment, nous, abordé le sens de la série, puisqu'on a laissé les personnages principaux en parler, mais c'est vraiment une série atypique, c'est vraiment quelque chose de fort au niveau identitaire. On a cet endroit et surtout cette patronne qui a un caractère très fort, qui est très rustre, qui dit non au DJ, qui dit non à la musique, qui dit non aux terrasses, qui dit non à la modernité et qui garde son ancien truc, son vieux machin et qui veut s'imposer.
Parce que ici, quand on parle d'identité, on est loin du cliché qu'on peut retrouver dans Plus belle la vie, notamment, où on a à peine un personnage de Plus belle la vie qui a un accent marseillais, et tout le reste, c'est un peu comme si ça pouvait se passer ailleurs. Ici, c'est vraiment super ancré dans la vie de ce quartier, dans la vie de Bruxelles, avec les accents locaux, avec le paysage local, donc c'est vraiment quelque chose de très marqué.
Oui, c'est même tellement marqué au point que donc, le tournage se fait dans le quartier même, que les figurants font partie du quartier, pour la petite histoire aussi, on a participé en tant que figurante à la série, mais les passants sont les bienvenus pour participer au tournage de la série. On sent vraiment, en tout cas, qu'il y a vraiment cette volonté d'ancrage local ici qui est bel et bien présente et qu'il n'y a aucune distance d'ailleurs entre ces acteurs qui tournent et cette population locale.
Entendre tout ça, ça donne envie d'avoir un extrait. Hein.
C'est le premier épisode de la saison 2. Astrid, donc, qui est la patronne dont on a parlé, qui défend ses intérêts, défend son café à sa manière, mais aussi défend sa famille, puisqu'elle veut, comme on l'a évoqué, elle veut garder une mainmise sur son fils Philippe, qui est un peu pris d'assaut par sa maman. Astrid, en fait, dans cet extrait, est fâchée parce que son fils s'est barré, il s'est en allé au Soudan, il n'en pouvait plus de sa pauvre maman qui était un peu envahissante. Et donc, elle n'est pas du tout contente. Pour elle, il est comme mort. Donc, vous avez ce premier extrait où on entend sa frustration. Et alors, un deuxième extrait qui va suivre juste après, elle décide de lancer un restaurant dans son café. Elle qui refusait tout contact, elle demande à sa mère qui a 90 ans et qui est une actrice géniale, et elle lui demande, dit comment est-ce qu'on fait pour le joindre mon fils là au Soudan, parce que j'aimerais bien lui dire que je vais faire un restaurant. Et donc elle doit utiliser la webcam pour pouvoir parler à son fils.
Pourquoi tu ferais pas le restaurant?
Sans Philippe.
Oui, mais en pensant à lui. En hommage aux disparus.
En hommage à cet ingrat, ça va pas la tête. Je vais pas lui faire plaisir, il manquerait plus que ça.
Je suis pas si sûr que ça lui ferait si plaisir, hein. Au contraire, ça pourrait l'emmerder que tu fasses le resto sans lui.
Tu crois?
Ah ouais, c'est vrai. Et ça pourrait peut-être le rendre jaloux, hein. Et ça pourrait aussi lui donner envie de revenir.
Vous croyez?
De ressusciter.
Ben oui, imagine, tu fais un super restaurant. Ça marche du tonnerre et tout ça sans lui. Il va les avoir là.
Ah ça, c'est sûr, ça lui ferait les pieds. Jose, qu'est-ce que t'attends pour aller toucher mes économies, toi? Ah, dis, t'as quel âge? 14 ans?
J'étais là. Tu as vu mon nouvel ensemble?
Oui, ça, pas moyen de le louper.
Il est joli, hein? Je l'ai acheté avenue Louise.
Avenue Louise, mais t'as payé ça combien?
Tu sais, moi, les chiffres, je sais pas. J'ai dû prendre un peu d'argent dans la caisse, mais je te rembourserai. Hein.
Oui, oui, c'est bon. De toute façon, les problèmes d'argent sont réglés.
Ah bon?
Et tu sais, toi, comment on fait pour appeler l'autre?
L'autre? Mais de qui tu veux parler?
L'autre ingrat. Ton petit-fils, quoi.
Ah, Fluke! Oh, mais c'est très facile. Viens, je vais une fois te montrer. Alors, tu vois... Tu prends le truc, le bazar, enfin, la souris, et...
Oh, stop. Moi, je vais pas l'appeler, je ne lui parle plus. Toi, tu vas l'appeler, tu lui dis qu'on fait le restaurant.
Tu fais le restaurant? Oh, mais c'est magnifique, je suis contente pour toi. Tu n'as pas besoin de flux, hein, pour faire ton restaurant.
Exactement, oui. Tu lui dis que je fais le restaurant sans lui, tu as bien compris?
Oh, ben, je suis pas sourde.
Et tu lui dis que c'est en route, hein, dis-lui bien.
Dis demain?
Ils ont quand même une drôle de relation, hein, ce garçon et sa mère.
Oui, il y a deux intrigues qui commencent la série. C'est l'intrigue « Il faut sauver le café » et l'intrigue « Comment Madame Astrid, la patronne, va-t-elle gérer la relation avec son fils et que son fils lui reste entre les bras ?» Pour rappel un peu, la saison 1, qu'est-ce qui se passe ? Le propriétaire du café, qui en fait tient un magasin de lustre juste en face, veut exclure Madame Astrid et l'expulser. Toute la saison 1, le but est de réussir à sauver l'enseigne. Et finalement, ça va être possible, moyennant la signature d'un contrat de brasserie. Donc, Madame Astrid ne sera plus que gérante du café, mais donc devra rendre des comptes à la brasserie. Pendant cette saison 1, on se familiarise surtout avec l'entourage qui gravite autour de Madame Astrid, son fils et sa maman. On rencontre le flic Rudy. Enfin, vous voyez, c'est des personnages très simples. Un des habitués du bar qui est un ancien pilote de la Sabena. Donc, on a aussi un côté très identitaire, Sabena étant la compagnie aérienne, mais qui a disparu en Belgique. Ça, c'est la saison 1. Et dans la saison 2, bah, Madame Astrid, à ce moment-là, est proche de la banqueroute. Donc, c'est toujours lié au café. Et puis, elle doit rendre des comptes au gérant de la brasserie, qui est donc Baudouin. Baudouin qui va devenir son amant et le futur papa de son bébé.
On remarquera quand même, pour ceux qui ne s'y connaissent pas beaucoup en royauté belge, qu'on a Baudouin, Astrid, Elisabeth et Philippe. Hein.
Toute la famille royale est réunie. Ouais, exactement. Quand il s'agit de grossesse pour Astrid, ben, on parle de Mathilde, évidemment, comme nom pour l'enfant, ça c'est sûr. Dans cette saison-là, elle est obligée de répondre aux contraintes de Baudouin. Il y a des chiffres, il faut arriver à rendre ce café rentable. Et l'une des possibilités, c'est de s'ouvrir au tourisme. Et il faut savoir qu'en Belgique et à Bruxelles, il y a énormément de Japonais qui assaillent la grande place avec leur appareil photo. Et donc, elle doit équiper son café avec le matériel pour accueillir des Japonais qui viendraient en 4 minutes boire leur café, prendre une photo et s'en iraient. Qu'en est-il de la saison 3 ? On va laisser Madame Astrid vous dire ce qu'il en est. Elle parle mieux que nous.
Il y a de nouveau des embûches sur son bistrot, évidemment. Arrive Delphine, le propriétaire, de nouveau, enfin tout ça. Je passe parce que cette année, il y a des gros durs qui vont s'y mettre, hein, sans tomber non plus dans toutes ces séries où il y a trop de meurtres, trop de sang et trop de vrais méchants, je sais pas quoi, il n'y a pas de ça, mais bon, il y a des enjeux quand même, clairement. Mais je dirais que la première saison était une saison où on trouvait une Madame Astrid paniquée parce qu'elle avait les huissiers sur le dos, et moi je la prenais comme un peu en période un peu déprimée, excessivement stressée parce que son fils quittait la maison pour la première fois. Déjà, elle n'était pas douée en gestion, mais elle avait un peu vraiment laissé tout ça aller à volo parce qu'elle sentait le départ du gamin. Voilà, donc c'était ça. Tandis que dans la saison 2, c'était la saison des amours. Et puis la saison 3, celle-ci, on va dire, c'est la saison de la maturité. Donc il y a de nouveau ça comme gros enjeu. Mais toutes les intrigues pour tous les personnages sont beaucoup plus mobiles. Donc on jongle beaucoup plus avec le tragicomique dans les séquences. Il y a plus de personnages, plus de rebondissements, beaucoup plus de tournages en extérieur aussi. Donc il y a beaucoup plus de mélange des situations écrites et d'improvisation avec les passants. C'est une saison beaucoup plus riche. Madame Astrid n'est plus en crise, aussi les affaires ont repris, les choses vont pas mal. Les Japonais sont venus grâce à Baudouin, hein, joué par Patrick Lerche. Grâce à lui, bah, je dirais, il y a des Japonais qui viennent régulièrement, donc la caisse tourne bien. Et le café ne va pas trop mal, ma foi.
Beaucoup d'intrigues dans ces 3 saisons du Melting Pot. Beaucoup d'intrigues, effectivement, qui tournent autour de ce café. Il faut absolument sauver ce café. Il faut aussi absolument, pour Madame Astrid, qu'elle garde son fils auprès d'elle. Mais, comme on l'a souligné aussi tout à l'heure, une des caractéristiques fortes de cette série, c'est vraiment son ancrage local, son identité bruxellaire, bruxello-bruxellaire, je ne sais pas comment il faut l'appeler, parce que bon, c'est un café bruxellois, où vont et viennent pour la plupart des Bruxellois. Et donc on sent vraiment cette identité forte. Tout à l'heure on a fait aussi le parallélisme avec Plus belle la vie aussi, où on retrouve un peu ce pseudo ancrage local marseillais, parce que c'est vrai, à part Roland et son café du Mistral avec son accent très prononcé, je ne pense pas que des personnages comme Luna ou encore Guillaume le médecin sont vraiment des Marseillais purs et durs. Ici on a vraiment plutôt dans Melting Pot cette catégorie de Bruxellois de souche qui revendique haut et fort leur identité.
Dans Plus belle la vie, Marseille est peut-être juste un prétexte, tandis que dans Melting Pot, Bruxelles est quasi un personnage de la série.
Oui, effectivement. Ici, Bruxelles fait vraiment partie intégrante de la série, au même titre que les différents personnages. D'ailleurs, comme je l'ai dit ici, vraiment le tournage se fait dans le quartier même. On fait participer les gens du quartier. Plus belle la vie, les scènes à l'extérieur sont quand même moins importantes. On fait plutôt tout, d'ailleurs, en studio. Enfin, en tout cas, le quartier du Mistral est reconstitué même en studio. Donc, ça a un côté un peu plus artificiel que dans Melting Pot Café.
On s'était dit, hein, tout est bruxellois dans cette série, même le policier Rudy, il a cet accent bruxellois et il y a aussi toute la mixité bruxelloise, le côté melting pot c'est une association de gens tout à fait différents, mais c'est quelque chose de typique à Bruxelles et au quartier des Marolles. Il y a tout ce côté mixité qui existe à Bruxelles et qui est représenté dans la série. Les lieux où les gens se promènent, les policiers quand ils sont en extérieur, c'est dans des lieux dits et très connus de Bruxelles. Tout la manière de vivre montre la vie bruxelloise, donc on n'essaie pas de copier une vie bruxelloise qui existerait, on est dedans. Fabrice Murjac, lorsqu'on a discuté avec lui, il disait cette série marche super bien en Amérique latine parce que justement, les gens, même s'ils ne connaissent pas cet ancrage-là, parce qu'ils ne le connaissent pas, c'est pas leur ancrage local, ils arrivent à rentrer dedans tellement on est dedans et ils apprécient ce côté entrer dans quelque chose d'authentique et d'unique et pouvoir donc s'identifier facilement. Et il faisait le parallélisme avec les Ch'tis où finalement ça a eu un succès incroyable. C'est aussi une petite communauté qui a sa manière de vivre. Ici, on entre dans la manière de vivre de quelqu'un et finalement, on sait très facilement faire des parallélismes avec sa manière de vivre à soi parce que les gens sont simples et que l'identification est facile, même si les coutumes et mœurs sont différentes.
C'est un microcosme, donc comme on le dit, c'est un microcosme bruxellois, mais c'est aussi, vu que la Belgique n'est pas non plus un pays immense, c'est aussi un microcosme belge, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de références à l'identité aussi nationale, que ce soit pour le prénom des personnages principaux, mais aussi la référence à la Sabena, qui est un des fleurons de la Belgique. Et puis aussi, il y a dans un des épisodes, une représentation de l'Eurovision. Donc, c'est-à-dire que des personnages vont écrire et interpréter une chanson pour représenter la Belgique au concours européen de la chanson. Donc, c'est aussi un petit clin d'œil belge assez sympathique.
La Belgique, elle t'aime et t'y cote. En toutes les couleurs, je coule dans la grisaille des chiens qui pleurent. Mais quand le soleil se réveille, c'est de nouveau noir, jaune, rouge.
Et toutes les lumières se meurent dans un incroyable arc-en-ciel qui te rappelle que la Belgique est belle, que l'étincelle, qu'elle t'en chancelle, malgré la pluie qui ruisselle.
Noir, jaune, rouge.
Et sur les pavés mouillés, je porte tous ces mots ancrés qui s'effacent et qui s'encrassent sans laisser la moindre trace. Sur ces trois traînées de couleurs, noir, jaune, rouge.
Noir, jaune, rouge.
Vous mettez le colère en Belgique,
soit fier.
La Belgique est un melting pot.
Noir, jaune, rouge.
Vous mettez le colère en Belgique,
soit fier.
La Belgique est un melting pot. Bouge pas à mon melting pot.
Ouais, mon pote, la Belgique, c'est trash quand il drache. Mais jamais tragique, toujours au bord du naufrage. Comme le Titanic, mais pas de panique.
Et toutes les lumières se meurent dans un incroyable arc-en-ciel qui te rappelle que la Belgique est belle, que l'étincelle, qu'elle t'en chancelle, malgré la pluie qui ruisselle.
Noir, jaune, rouge.
Et si j'étais le roi, moi je dirais stop. Mes chers compatriotes, on fait la paix, on est tous potes. Et on arrête de le mettre en compote. Mon beau royaume du melting pot.
Noir, jaune, rouge.
United color of Belgium, soft hero.
La Belgique est un melting pot.
Noir, jaune, rouge.
United color of Belgium,
soft hero.
La Belgique est un melting pot.
Vous aurez donc compris que c'était bel et bien la chanson inventée pour l'Eurovision. Noir, jaune, rouge, faut-il vous rappeler que c'est le drapeau de la Belgique, une image cliché, hein.
Oui, bon, ici, on a pris l'exemple parce que c'est assez comique, mais faudrait pas que vous imaginiez que la série est nulle et que c'est naze parce que la chanson est un peu naze, parce que franchement ça vaut vraiment le détour. Maintenant c'est vrai que sortie du contexte, cette série elle est difficile à écouter. Vous donnez juste un extrait comme ça, ça fait un peu oulala, mais non, franchement c'est vraiment bien, on rentre dedans, on adore. Et de manière générale, effectivement il y a un décalage, mais il passe très bien. D'ailleurs ce décalage qu'on a ici dans la chanson, ben il est partout. Donc comme je disais, au niveau des dialogues, il y a vraiment un choix des dialogues qui n'a rien à voir avec une série classique. On entendra le flic dire une fois « Rudy petit zizi » parce qu'il n'arrive pas à draguer sa collègue Annelies, la néerlandophone. On a vraiment des phrases typées, des dialogues qu'on ne peut pas imaginer ailleurs. Mais ces dialogues sont vraiment bien assumés et donc ils font sourire et ils ne sont pas du tout grotesques. Ça ne passe pas du tout comme le truc nul où il y a des faux rires derrière ou des choses comme ça. Non, ça passe bien, c'est énorme, c'est gros comme une maison, mais ça passe en délicatesse, j'ai envie de dire. Il y a un juste dosage. Ces dialogues sont à mettre en parallèle avec aussi les costumes. On peut ici carrément parler de costumes parce qu'il s'agit pas de juste être habillé. Quand on voit Madame Astrid, sa dégaine, elle sort d'un univers parallèle, de quelque chose qui n'existe pas. Sa coiffure, ses habits, son style, c'est un personnage plutôt de film ou de conte ou des choses comme ça.
C'est un personnage qui aurait pu exister dans les années 60, mais transposé dans les années 2000 au final.
Oui, voilà. Mais en même temps, elle se cadre bien avec les années 2000, donc on ne sait pas lui donner un âge.
On la voit bien visiter l'Expo Universelle de Bruxelles de 58.
Exactement, finalement. Oui. Donc elle sort vraiment d'un univers hors norme. Et je vous propose peut-être de l'écouter. Elle va vous dire comment elle vit justement ces dialogues qui sont au premier abord peut-être un peu gnangnans, mais qui passent vraiment bien, et comment elle, elle les assimile et comment elle les fait passer.
Je dois dire, il y a des fois, je les trouve super sympas, super drôles. Il faut juste oser les dire, parce que c'est tellement parfois cuculapraline que si tu ne le fais pas avec beaucoup d'enfance, ce sera juste con. Je veux dire, c'est gai de jouer au con, mais qu'il faut que dans le fond, il soit pas des comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des fois, je bougonne un peu quand je dois dire trois fois pipi sur une page à cause de Madame Pipi, les toilettes, ça m'énerve un peu. Mais quand tu le fais avec un tout petit peu de... Allez, de bonhomie, et que tu te rappelles un peu comme quand t'es chez toi, moi ça m'arrive assez souvent quand même, avec ma grand-mère, de venir, j'adore quand elle se vexe un peu, si elle ne se vexe pas, ça ne marche pas évidemment, mais j'adore quand elle se vexe un peu et de venir lui montrer mes seins, tu sais, de faire, venez, je veux, tu lèves ton t-shirt, tu fais, et ta mamie qui fait, arrête, hein, minou, qu'est-ce que tu fais? Ça c'est très très gai. Donc je prends les dialogues de Jean-Luc comme ça, je me dis que je viens un peu secouer, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai que c'est parfois un peu, tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Où est Audiard, tu vois, où sont les beaux dialoguistes? Jean-Luc écrit très très bien.
Il ose écrire comme on parle.
Ce qui est intéressant ici, dans ce que Madame Astrid dit, donc dans ce que Stéphane Bissot dit, c'est qu'il y a le souci d'écrire comme on parle. Quand on regarde la série, on sent vraiment cette écriture assez fluide, assez accessible, assez rythmée, vraiment assez sympathique. Ça permet aussi de peut-être mettre une certaine ambiance, une certaine décontraction entre les personnages, entre les acteurs, et ça se sent vraiment à l'image. Ça permet aussi de créer d'autant plus une certaine proximité avec ces personnages, donc c'est un peu, malgré ces accents assez bruxellois, on peut aussi, d'une certaine manière, s'identifier aux choses qu'ils peuvent dire, aux choses qu'ils peuvent faire. Et donc, ça renforce cette proximité et aussi certaines affections et cet attachement qu'on peut avoir sur ces personnages.
Elle nous disait, Stéphane, elle a des fois des gens qui viennent les voir une fois qu'ils sont en pause et leur disent « En tout cas, merci, ça me fait penser, ça me rappelle ma grand-mère, ma tante, mon fils, machin. » Donc, il y a vraiment cette proximité qui va jusque-là, une accessibilité qui est déjà clairement là. Et puis, les gens s'identifient et viennent le dire.
La chose à laquelle ça me fait penser quand je vous entends parler et quand je vois la série, justement au niveau de l'identité, c'est toutes ces séries québécoises qu'on peut voir parfois sur TV5 Monde, dans lesquelles, justement, il y a ce parler québécois, on n'essaye pas de perdre l'accent. On vit en plein dans les villes québécoises et on est dans un univers bien particulier dans lequel, justement, même si on connaît pas bien l'univers québécois, on arrive à rentrer. Et je crois qu'ici, ils ont réussi exactement la même chose.
Oui, d'ailleurs, à un point tel que Stéphane Bissot, quand on la croise dans la rue, c'est Madame Astrid. Elle fait partie de cette population. C'est une personne qui vit vraiment et qui existe vraiment pour les Bruxellois, mais aussi pour la population belge. Donc, c'est elle aussi qui nous l'a dit. Donc, c'est aussi un sentiment assez curieux.
Je propose qu'on s'écoute un extrait. Comme ça, vous allez pouvoir voir, justement, quels sont ces types de dialogue. Alors on a pris un extrait ici au hasard parce que c'est difficile de choisir un extrait plutôt qu'un autre. C'est un extrait où on entend le flic Rudy parler à Annelise, la flic. Vous verrez, oui, il y a l'accent déjà bruxellois et puis il y a cette façon de parler qui est juste on discute et voilà, ça vous permet un peu d'entrer dans l'univers.
Tu sais, depuis que t'es arrivé, moi je t'observe sur le terrain et je trouve que vraiment tu fais un travail formidable. Non, c'est vrai, hein, tu te débrouilles vraiment bien. Puis tu prends ça à cœur, tu fais même respecter la loi.
Mais c'est normal, non?
Ah, oui, je ne discute pas. Hein. Tu sais, moi, je suis comme toi. Hein. On n'est pas là pour être sympa. Hein. Pour pitié, pour le porte-flot.
Ça serait pas un sein qu'on trafiquait, ça?
Ah, oui, oui, t'as raison. Affirmatif. Ouh, attends, ça, ça va pas nous échapper, celui-là. Faut pas rigoler avec ça. Tous les coups, c'est des petits jeunes qui veulent faire le malin. On termine sur un porte-flot. C'est censé être un 50cc, ça. Et ça fait le bruit d'une tronçonneuse dans les cartes d'identité.
Bonjour, Rudy.
Maman, mais les embêtes.
Oui. Je suis désolée, Rudy, mais tu vois, on l'a un peu trafiqué pour aller plus vite. C'est moi qui ai insisté parce que comme ça, je suis obligée de rester collée contre David et j'aime ça.
C'est ma faute, je ne peux rien lui refuser, mais elle ne fait pas beaucoup plus de bruit qu'avant, hein, à peine.
Oui, à peine, et de toute façon, je suis sourde, tu sais bien.
Non, non, ça va, laisse faire, je m'en occupe. Bon, ça ne va pas du tout, ça, hein. Non, non, mais ne me contredisez pas, ce n'est pas parce qu'on se connaît que vous allez m'influencer.
Mais j'ai jamais dit ça, monsieur l'agent. Vous avez
vu ça? Bon, allez, vous allez me remettre tout ça en état et plus vite que ça, c'est compris?
Oui, c'est compris.
C'est pas mieux, ça. Allez, circulez.
Oui, allez, on y va. Excusez-nous, monsieur l'agent.
On y va.
C'est moi qui
Vous ça, ils vont filer droit maintenant, hein. Vous compris qui était le chef, hein. T'apprends pas sur l'école de police, hein. Oh, ben, bah, ça travaille au terrain, ça.
D'après ce qu'on a pu entendre dans vos propos, c'est pas une série qui vous a dégoûté, hein.
Non, au contraire, c'est plutôt vraiment une série que personnellement j'ai savourée. C'est vraiment une série que je trouve très sympathique. Comme on l'a dit et redit, il y a vraiment cette identité locale et on y va à fond, sans que pour autant on tombe vraiment dans l'excès et que ce soit le truc vraiment super lourd. Ici, il y a vraiment une certaine justesse dans ce dosage et donc ça fait que c'est vraiment très plaisant à regarder, même si on connaît pas peut-être ce quartier des Marolles, même si on habite à des milliers de kilomètres, c'est vraiment très facile de rentrer dans ce type de série.
On a l'impression qu'ils ont gommé un peu l'écueil qu'ils avaient pu avoir avec la série précédente que la RTBF avait produite, à savoir 7e ciel Belgique, qui était enregistrée dans la ville de Tournai, mais à part le fait que c'était à Tournai, il n'y avait pas vraiment d'ancrage belge. Ici, c'est vraiment l'ancrage typiquement bruxellois, et ça, c'est peut-être justement l'étincelle qui manquait à 7e ciel Belgique et qu'on peut retrouver dans Melting Pot Café.
Oui, tout à fait, et c'est comme on l'a dit, Bruxelles est vraiment un personnage à part entière de cette série, et c'est sans doute aussi ça qui fait son succès.
Moi, je dois dire que, en abordant le sujet, j'avais pas vu Melting Pot Café. J'avais des a priori négatifs. Pourquoi ? Parce qu'en Belgique, on a tendance à pas tellement mettre en valeur le côté régional, etc. C'est pas du tout un pays où il est à la mode de partir d'un sujet régional. Les émissions belges sont pas toujours top, etc. On n'est pas du tout dans une idée où, dans la France, par exemple, une émission sur Paris pourrait avoir ce côté branché, etc. Quand on part de la Belgique avec une émission sur Bruxelles, ben ça peut être une connotation négative pour démarrer plutôt qu'une connotation positive. On est tous matraqués par les séries américaines et en Belgique comme ailleurs, ben on considère que c'est ça qui prévaut, qui est la norme, qui est sympa, c'est juste, c'est moderne, c'est sexy et nous on n'est pas sexy, voilà. Et ben cette série, je l'ai trouvée sexy alors que c'était inattendu et elle est vraiment bien. Du coup, c'est un peu comme un film français, une comédie française. Quand c'est réussi, c'est meilleur qu'une comédie américaine. Et ben c'est pareil. J'ai l'impression qu'ici c'était vraiment réussi.
C'est aussi une série qui, alors qu'en tant que Belge, on ne cesse de dire mais non, cet accent, que vous ne cessez de singer, c'est pas ça la Belgique, etc. C'est une série qui, par contre, assume ça. Parce qu'il faut dire que les Marolles, c'est l'accent bruxellois qu'on entend partout caricaturé comme étant l'accent belge. Et probablement que ça a fait peur à pas mal de gens, mais que c'est un essai qui a été bien traduit en Gaule.
Et une des forces aussi, donc, c'est assumer cette belge attitude, mais aussi avoir cette distance. Et on ne se prend pas au sérieux, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment ça aussi, la Belgique, c'est on ne se prend pas au sérieux. Et donc, il y a quand même aussi ce degré d'humour qui est parfois peut-être déroutant, mais qui est tellement frais, qui est tellement léger. D'ailleurs, je pense notamment aussi à une actrice française, cette fois, donc à Tilda Shelton, qui joue Elisabeth, la grand-mère de Philippe et la mère d'Astrid. C'est elle aussi qui donne ce petit côté décalé, ce petit côté savoureux, qui est aussi une des caractéristiques de la Belgique.
Tilda Shelton, si vous la situez pas, c'était Tati Daniel dans le célèbre film.
Il y a ce côté, on se prend pas au sérieux, mais on n'est pas ridicule, on est attachant. Et ça, je pense que c'est important d'insister là-dessus. C'est pas, c'est quoi ce programme qui vient de Belgique et complètement naze. Non, ça passe bien, franchement.
Probablement parce que c'est pas une caricature. C'est tellement juste que ça en devient attachant. Et que c'est pas une moquerie, justement.
C'est pas une moquerie, maintenant c'est vrai qu'il y a quand même des caricatures, mais bon, elles sont bien dosées. Ce qu'on a remarqué sur le tournage, c'est cette sympathie qui existe entre l'équipe. Bon, maintenant ils ont un budget serré, hein, ça c'est certain, c'est une série belge, donc c'est vrai qu'ils se serrent les coudes à ce niveau-là, mais il y a vraiment une bonhomie, une ambiance sympa, un réalisateur qui est constructif, qui va à l'essentiel, qui est efficace, et puis une liberté pour les acteurs de rajouter certains textes, d'improviser à certains moments. Je pense qu'ils ont que 3 prises pour chaque scène, donc faut que ce soit bon et assez vite. Ils se concentrent vraiment pour que ça se passe. Il y a vraiment une bonne ambiance qui est générée là sur le tournage.
Et ils sont tout à fait aussi conscients de leurs limites, que ce soit financier, que ce soit au niveau humain. Ils sont tout à fait conscients de ça. Donc, je veux dire, ils ne vont pas essayer de faire des effets spéciaux de dingue. Ils restent vraiment dans quelque chose de simple, mais qui ne sent pas le toc à 10 km. C'est vraiment quelque chose qui, à ce niveau-là, est bien géré par l'équipe.
C'est comme ça que nous, on a joué dans une des scènes, mais c'est parce que, bon, ils demandent aux passants là sur place, ils disent là, on a besoin de quelqu'un, on a besoin de quelqu'un en plus, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui change, ils improvisent, ils font sur le tas, mais ça donne un bon résultat. C'est vraiment sympa.
Et une expérience très sympathique, en tout cas, à refaire.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait convaincre le public français. Bon, j'espère qu'on l'a fait, mais on a pensé que la meilleure personne pour vous convaincre, c'est certainement Madame Astrid. Donc, on lui a demandé, voilà, qu'est-ce que cette série peut apporter de plus qu'une série française et comment vous convaincriez le public français de regarder cette série, eux qui n'ont pas accès à Bruxelles, qui n'ont pas accès à tout le prérequis culturel qu'il faut peut-être pour adhérer à tout l'humour. Ben voilà ce qu'elle nous a dit.
Pour ce qui est de donner l'envie, je ne sais pas si ça je peux le faire. J'espère juste que vous soyez curieux de nous suivre encore. Alors moi je peux dire que j'ai toujours envie de les jouer, de ces épisodes et de retrouver l'équipe parce que on se marre. Et on se marre, je pense que c'est lié justement, la différence est là, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus affectif. On n'a pas peur de l'émotion en Belgique. On n'a pas peur de l'émotion et on n'a pas peur d'avoir l'air con. Et c'est deux grandes qualités. Donc je pense qu'on se joue de nous-mêmes avec beaucoup de sincérité. Et ça, je pense que c'est peut-être un avantage sur certaines séries françaises. Ils sont toujours de très très bonnes factures, mais un peu trop copier-coller peut-être des Américains. Et voilà, ici, on ne cherche pas à ressembler à qui que ce soit qu'à ça. Et c'est une qualité, ça.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.